Je suis en train de faire deux, trois réglages aussi parce que le micro, là, sinon, ça doit saturer. Normalement, le son n'est pas terrible pour vous. Non, moi c'est bon maintenant. Alors la présentation, on va la mettre là. Je me demande si on... Non, il n'y a pas tellement de moyens de la mettre en... que vous la voyez en même temps. Ok. Blandine, c'est bon pour la présentation? Ok, alors on est sur la slide 1, on va prendre la slide 2. Alors, l'essentiel de la présentation, c'est que vous posiez vos questions et qu'on discute ensuite pour que vous ayez vos réponses à vos besoins. Je vais vous faire là une représentation très rapide pour placer le contexte, pour expliquer les grandes lignes et pour donner des pistes aussi pour vous. Vous verrez que les slides, il y en a beaucoup. C'est surtout pour que vous ayez du contenu. Vous pourrez revenir dessus ou pendant les questions-réponses, on pourra s'appuyer sur un slide pour vous montrer là à tel endroit, voilà des réponses, voilà comment on fait. Voilà, et donc l'essentiel, c'est de voir comment vous pouvez mettre le numérique à votre service et non pas être pillé ou intoxiqué par les services numériques qui ne s'intéressent pas tellement à vous, en fait. Voilà. Donc pour l'introduction, là, ce slide numéro 2, c'est la synthèse et c'est de montrer que, bon, bien sûr, il y a un problème avec les services, mais... Non seulement il s'agit d'arrêter les erreurs et les dégâts qui sont phénoménaux aujourd'hui, si on veut bien les regarder, mais aussi de mettre à l'inverse, en fait, cette puissance du numérique au service de vos bénéficiaires, et pas seulement pour le fonctionnement de l'asso, mais aussi peut-être de les guider, vos bénéficiaires, vers des services numériques de bonne qualité. Ce qui est un plus de la même façon qu'on peut leur fournir des hébergements, des aides et différentes choses. Voilà. Et le troisième point, c'est pas plus vite que la musique, très progressivement de faire la mutation, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire en ce moment pour évoluer, pour suivre tous ces trucs numériques. Donc il ne s'agit pas de croire qu'on va tout faire d'un coup, mais plutôt d'y aller très progressivement. Alors, très globalement, le numérique, c'est puissant. C'est aujourd'hui un outil de puissance phénoménale. Comme l'argent l'a été avant, et puis encore avant les armes, hein, l'acier, les épées, tout ça, c'était un moyen de puissance. Aujourd'hui, c'est le numérique. Attention au miroir aux alouettes, parce que cette puissance, aujourd'hui, elle est en fait dans les mains de gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les vôtres. Et c'est, on va voir tout cela un peu plus en détail, enfin surtout à travers vos questions. Une chose importante, d'où je parle pour dire tout cela? Bon, moi j'aime l'informatique, j'ai commencé à 14 ans, c'est-à-dire il y a très longtemps, et à l'époque, se trouver un ordinateur, c'était pas si simple, donc je ne sais pas très bien ce qui a fait que j'y suis allé avec des copains, mais j'ai démarré très tôt. Depuis, j'ai fait à peu près tout dans l'informatique. J'ai tout programmé, j'ai fait de la direction de projet, du marketing. Donc ce que je tiens à dire, c'est que j'aime les entreprises, j'aime l'informatique. Oui, Raphaël, précise, vous pouvez poser des questions et arrêter dans la présentation si vous voulez. Je vais aller assez vite sinon hein, dans la présentation, parce que de toute façon, enfin, l'essentiel, ça sera vos questions après. Ce qui est important de voir, c'est que je ne suis pas réfractaire au numérique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'âge de pierre. Je ne suis pas destructeur, c'est-à-dire que je ne suis pas comme certains qui voudraient détruire les McDo ou détruire les GAFAM ou quoi. Donc, ils sont très bien les GAFAM. Les gens adorent ça, tant mieux qu'ils y aillent. Maintenant, nous, on fait attention à ce qu'on fait. Et je ne suis pas intégriste non plus. C'est très bien d'aller de temps en temps chez McDo ou d'aller chez Google de temps en temps. Ça peut être très pratique. Il n'y a pas de problème à ça. Ce qui compte, c'est de faire attention dans certains cas à ce qu'on fait. Alors, des exemples. Bon, ça, on va passer très rapidement. Les gens se sont fait intoxiquer avec leur consentement. Hein, ce n'est pas une question de fuite de sécurité de données, etc. L'armée américaine s'est faite avoir, en fait, dans l'histoire. La population américaine aussi, bon, etc. Il y a plein d'exemples. Vous irez regarder si ça vous intéresse. Alors, on va regarder un scénario plus typique de dégâts pour une association. Globalement, une association s'occupe de personnes qui ont des difficultés. Voilà, on va présenter cet aspect-là. Donc ça peut être des réfugiés, des sans-papiers, des personnes violentées, ou aussi les personnes violentes, les personnes qui ont besoin d'aide parce que alcoolisme, drogue, prostitution. Et on les aide, mais il y a plein de vecteurs de dégâts au niveau numérique. C'est que les comptes des boîtes mail chez les grands comptes type Gmail, Hotmail, etc. Le stockage des fichiers. Tout ce qui est réseaux sociaux, les pages sur les Facebook, Instagram, etc., les sites internet, les téléphones mobiles avec les contacts, les WhatsApp, tout ça sont des possibilités de fuite de l'information dans la nature. Quand je dis dans la nature, c'est-à-dire chez des gens qui vont récupérer cette information et vous ne savez pas qui c'est, et puis vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. Ça sera revendu, hein, les GAFAM revendent les informations à qui il veut acheter. Donc ces informations sur les personnes que vous voulez aider, si elles fuitent, c'est pas les aider en fait. Parce que dans 5 ans, dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, ça va ressortir et à ce moment-là, ça va leur faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on dira, bah voilà, cette personne s'est droguée à telle période, donc voilà, on en tire des conclusions, il y aura des conséquences, comme on dit aujourd'hui. Un autre point très important que je souligne, c'est que l'utilisation de ces services, sans regarder précisément ce qu'on fait, place les informations et les données que vous manipulez sous des juridictions de pays qui ne sont pas forcément les vôtres. Ça, c'est un problème parce que vous pensez être sous le droit français et en fait, vous êtes sous le droit américain, par exemple, ou d'autres. Donc ça, c'est une deuxième facette des dégâts qui sont, à mon avis, assez importantes pour les associations. Donc voilà pour les dégâts globaux. On va regarder donc les solutions. En fait, elles sont à portée de main. Il s'agit d'assainir et de communiquer sur le fait qu'on a assaini. Il ne s'agit pas de faire ça sans cacher ou quoi. Au contraire, ça peut être un vecteur de communication pour l'association. Donc sans attendre le scandale, on a intérêt à se pencher sur ces questions, mettre en place les choses adéquates et ensuite de communiquer pour dire voilà, quand vous venez chez nous, vous êtes préservé de ce point de vue-là. Ça fait partie justement de ce que l'association offre à ses bénéficiaires. Je regarde la question de Fabrice. Oui, éventuellement, ça peut être utile d'être sous une législation différente. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, il faut aller chercher des fournisseurs de services qui font que les données que vous mettez en place chez eux sont dans une législation différente. Les paradis fiscaux ont servi à faire exactement la même chose au niveau financier. C'est tout à fait possible, en effet. Aider les gens en leur fournissant du numérique sain. Donc ça, c'est la deuxième facette que je tiens à soulever. C'est qu'il ne s'agit pas de voir ça comme une contrainte. Oh là là, ça va être très compliqué, ça nous ennuie et c'est embêtant. Mais ça peut être au contraire donc un atout de communication, mais aussi un atout de service dans ce que vous apportez aussi aux bénéficiaires. Le fait, par exemple, d'orienter un réfugié ou un sans-papier vers des boîtes mail de bonne qualité, ou même de lui fournir, ça peut être un atout. Ça peut faire partie de ce qu'on offre à des bénéficiaires pour les aider. Donc je continue, on va très vite. Hein. C'est le but, c'est vous allez voir même les slides d'après, c'est beaucoup de solutions, etc. On va surtout les regarder avec vous. Hein. Là, c'est pour faire un tableau général. En termes de stratégie, comment on fait pour sortir de ces services numériques qui sont toxiques et pour se placer dans de la bonne pratique et dans de l'hygiène, en fait, dans du bon numérique, du numérique sain? On se fait aider par des spécialistes à votre service. C'est-à-dire que vous en avez déjà qui vous aident pour le bâtiment, les locaux, le chauffage, hein, vous avez des architectes, vous avez des entrepreneurs, des chauffagistes. Vous avez, pour l'administration, la gestion, la compta, vous avez des experts comptables, vous avez des aides administratives, vous avez des banquiers qui peuvent vous conseiller, etc. Et ben, pour le numérique, on peut prendre des assistants à maîtrise d'ouvrage, qui est l'équivalent d'un architecte, hein, en quelque sorte, des gens qui conseillent un directeur. On peut bien sûr s'appuyer sur les informaticiens aussi, quand ils comprennent ces notions. Et puis il y a plein d'associations qui peuvent vous aider, qui sont très très pointues là-dessus, dont WebAssos qui justement fait un atelier là pour vous permettre d'aller dans ce sens. Le deuxième point en termes de stratégie, c'est qu'il faut des fournisseurs qui soient à votre service. Les multinationales ne sont pas à votre service, elles sont aux leurs, elles s'occupent d'elles. L'association en France qui s'occupe de ci ou ça, ça ne les intéresse pas beaucoup. Et donc le deuxième axe, tout simple mais très important pour aller vers du numérique sain, c'est de faire appel à du local. À du local et à des gens que vous connaissez. Éventuellement d'ailleurs de l'associatif dans le domaine du numérique, il y en a plein. Il y a des associations qui proposent des hébergements, etc., dans un certain état d'esprit, avec des valeurs qui justement se démarquent de ces multinationales qui, elles, visent d'autres façons de faire. Et vous font croire que c'est, il n'y a que comme ça qu'on peut faire de la technologie. Voilà. Dernier point en termes de stratégie, c'est que ça demande des efforts. Ça tombera pas tout cuit dans la bouche, ça c'est sûr. Il faut faire des efforts. Et on l'a vu là avec la web conférence. Ça coûte aussi. À vouloir avoir tout gratuit, il faut pas s'étonner qu'on a des trucs qui font soit fonctionnent pas bien, soit fonctionnent bien, mais c'est pas gratuit en fait. C'est pas gratuit parce qu'il récupère une information qui est une mine d'or en fait aujourd'hui. Et qui d'ailleurs, on l'a vu donc dans les dégâts, peut avoir des impacts très importants sur les populations, sur les personnes. Donc je continue après, donc le comment, diapositive 10 pour ceux qui n'auraient pas suivi. Les outils, je fais une liste là, bon, il y a tout, hein. Il y a les ordis, les téléphones, les services numériques. Il s'agit de basculer, on regardera les détails. Avec une question importante, hein, pas d'exclusivité, pas d'intégrisme. On peut très bien continuer à fonctionner avec des outils qui ne sont pas sains tout de suite. En fait, c'est comme la malbouffe pour la nourriture. On n'en meurt pas du numérique qui est toxique. On fait des dégâts, mais on n'en meurt pas. Donc il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas d'intégrisme, quoi. Je vais vous donner slide 11. Ma recommandation par expérience pour faire une transition et être passé à du numérique sain. J'ai mis 7 points dans l'ordre de ce qui paraît le plus simple, le plus directement accessible pour vous. Et ensuite, progressivement, ce qui est plus complexe à mettre en place. Bien sûr, on reviendra sur ça avec vos questions parce qu'il y en a, vous avez peut-être des fois déjà commencé sur certains aspects, puis pas d'autres, etc. Donc, premier point, le plus simple, c'est Firefox, avec un bloqueur de pub de type uBlock Origin, enfin des choses saines. Et Thunderbird pour les mails. Voilà. Ça, c'est vraiment les outils simples. On peut les utiliser avec Windows. Ensuite, les boîtes mail. C'est un premier pas vers l'hygiène numérique. Donc, sortir des gmail.com, orange.com, tout ça, et se faire ses boîtes mail avec son fournisseur local. Ça marche très bien. C'est très simple. C'est facile à faire. La transition est assez facile à faire parce que vous pouvez faire basculer vos boîtes mail assez facilement. Voilà. Ensuite, donc, un point clé, le stockage des fichiers partagés, tout ce qui est contact et agenda partagé, qui est une fonctionnalité extrêmement utile de partager tout ça, mais justement de le partager, mais pas de le faire fuir dans la nature. Donc ça, c'est aussi assez facile aujourd'hui, c'est faisable. Ça demande de s'adapter, de passer à des nouveaux outils. Le quatrième point, je mets les cool phones, c'est-à-dire de passer avec des téléphones qui ne sont pas aussi des fuites d'informations sur tous vos contacts. Et donc les contacts, ça veut dire les numéros de téléphone, par exemple, des gens qui sont sans papier. L'État français va se régaler d'aller regarder tout ça en demandant à gmail.com, par commission rogatoire, de transmettre les informations. Ok, j'ai vu Raphaël. Donc on est à la slide 11 sur les recommandations dans l'ordre en termes de stratégie, de façon de s'y prendre pour passer à du numérique sain. Et bienvenue aux deux personnes qui se sont inscrites. Moi je les vois pas sur le Framatalk, Mais c'est pas très grave. Oui, ils sont pas encore là. Ok. Bon, on recommencera. Voilà, il y en a un qui est arrivé. Je vais continuer sur la slide pour qu'on avance, mais on va faire rattraper avec l'autre personne dès qu'elle va arriver aussi.
Oui, bonjour, désolé pour le retard. Je viens juste recevoir l'invitation en fait.
D'accord, pas de problème. Laissons.
Est-ce que tu as besoin que je mette en marche la caméra?
Non, non, non. Par contre, l'essentiel va être de poser des questions tout à l'heure, de faire un atelier. Là, c'est une présentation très rapide du tableau général et de ce qu'on peut faire, de comment on le fait, etc.
Super, merci.
Voilà. Et j'attends une deuxième personne qui va s'inscrire pour redémarrer. Enfin, on va continuer tranquillement sur la 11, la slide 11, qui est une sorte de recommandation de comment s'y prendre pour faire une transformation, passer à du numérique sain. J'étais donc sur le quatrième point, c'est tout ce qui est téléphone avec le concept de cool phone. Je vais expliquer ensuite après, et puis vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. Sur les téléphones, donc la partie téléphone, qui est une grosse fuite d'informations et de problèmes de toxicité. Le cinquième point, c'est les analytics, qui sont un moyen assez simple, relativement simple bon, enfin, il faut s'organiser un petit peu plus, de déjà aussi éviter que vos bénéficiaires soient immédiatement pris dans la nasse des services toxiques dès qu'ils viennent sur votre site. C'est un des points, c'est intéressant. Disons qu'il y a un énorme avantage et c'est relativement faisable. Enfin, c'est un peu plus complexe de passer à Firefox, mais disons que c'est. Et de faire ses boîtes mail, mais c'est pas très. Voilà, c'est faisable. WebASOS a d'ailleurs développé des choses avec Matomo pour faire ça. Et puis, sixième point, revoir sa stratégie de réseaux sociaux, de site internet, de blog, et donc refaire éventuellement certaines parties. L'axe clé, là, je vais développer 2 secondes. C'est de communiquer vers l'extérieur avec tous ces moyens que j'appelle grande distribution. C'est comme des hypermarchés, ces machins-là. C'est de la grande masse. On est référencé sur le moteur de recherche. Donc, c'est comme quand on était référencé dans la grande distrib. Bon, enfin, c'est comme la grande distrib et les hypermarchés. On ne peut pas dire que la qualité soit super. Voilà, c'est pas très bon. Il y a de la malbouffe partout. Il y a de l'addiction. Voilà. Donc, on communique vers l'extérieur par ces moyens. Et par contre, l'acquisition d'adhérents, le fait de faire venir des visiteurs amicaux, réguliers ou pas, ça, on le fait avec des moyens sains. C'est-à-dire sur un site internet où il n'y a pas d'analytique, c'est des choses comme ça, on les fait venir par des moyens sains. Je vous donnerai un exemple un peu plus précis, quand on regardera cela, si ça fait partie de vos questions et de vos points clés. Puis après, bah, il reste les choses plus en profondeur, qui sont les outils métiers, les bases de données, qui sont le domaine sur lequel là il faut faire une investigation un peu plus complexe pour passer à du numérique sain. Faut voir quoi. La recommandation c'est de passer dans l'ordre et surtout le point clé c'est progressivement. Il n'y a pas d'urgence, il s'agit de démarrer et de mettre en place progressivement les choses. Ça demande de faire des efforts, mais ça demande aussi d'expérimenter. Il faut voir ce qui convient, ce qui ne convient pas. Il ne faut pas s'attendre à des solutions magiques. Voilà, on appuie sur un bouton et hop, ça y est, tout de suite, tout est bon. Ça, c'est l'informatique d'il y a très longtemps. Enfin, on a fait croire ça. On a fait croire ça il y a très longtemps. Aujourd'hui, on le sait, l'informatique, c'est un énorme secteur parce que ça demande beaucoup de mécaniciens, en fait. Beaucoup de mise au point, beaucoup d'efforts pour pouvoir faire tourner tout ça. Je continue. Donc, diapositive 12 à 18 à peu près. Ouais, c'est ça. C'est une diapositive par point clé qui vous donne, là je suis sur la 13 par exemple, les boîtes mail. Je vous indique un site web que j'ai fait au passage, qui donne les fournisseurs possibles, locaux, que j'ai identifiés, qui sont sains, qui sont clairs. Il y en a d'autres. Donc voilà un exemple. Vous avez sur le site aussi des explications de comment on fait. Puis il y en aura de plus en plus parce que c'est un site qui est en construction, enfin que je complète au fil de l'eau et au fil d'ailleurs des éléments que je rencontre dans des cas concrets. Un point sur les boîtes mail, c'est que vous avez des entreprises qui font des offres très avantageuses aux associations. Bon, par exemple, je crois que c'est Ikula qui offre des hébergements soit gratuits, soit au tiers du prix. Enfin, il faut voir avec eux pour tout ce qui est association. Donc, c'est même pas une question d'argent, tout ça. C'est une question surtout de s'y mettre et d'aller voir ce genre de fournisseurs plutôt que foncer chez les GAFAM. Voilà, c'est un exemple. Bon, vous avez les stockages de fichiers partagés. J'indique les hébergements chatons. Hein, slide 14. Bon, tout ce qui est hébergement chaton, c'est intéressant. Bien sûr, il y a Nextcloud qui a le vent en poupe en ce moment. Il y a Cozy Cloud aussi qui est intéressant, qui est très orienté sur le libre. Le tout, bien sûr, chez des hébergeurs que vous avez validés. Et je cite en effet, on l'a évoqué, il y a des hébergeurs en Suisse, en Belgique, qui ont des approches très saines, très chouettes, qui sont en effet à disposition. Après, il faut choisir. Oui, il y a Raphaël qui cite O2 Switch aussi, hein, qui fait partie de ces hébergeurs locaux français et qui héberge gratuitement les assos. Il faut leur demander, c'est tout. Voilà, donc slide 19, une synthèse. Je le dis autrement. Je fais une comparaison souvent avec la malbouffe numérique. C'est-à-dire, il y a la malbouffe alimentaire, il y a la malbouffe numérique. Bon, là, je dis, il faut informationner sain. Il faut manger sain, il faut informationner sain. Ça implique de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on prend, à comment on prépare sa nourriture, enfin comment on prépare son numérique. Et ça implique de faire aussi ses configurations, de s'appuyer sur des fournisseurs qui sont connus, qui s'occupent bien de vous, comme le maraîcher au marché ou comme l'épicier qui a sélectionné des produits. Il faut se renseigner, essayer, observer, c'est pas tout. Voilà. Et avec un point clé, c'est qu'aujourd'hui, la population fait attention pour la nourriture, pour la cosmétique, pour l'énergie aussi maintenant, ça commence à être important tout ça. Et je pense qu'il faut faire aussi attention maintenant pour l'information et le numérique, de la même façon. Ça demande des efforts, mais c'est le prix de la liberté. Et plus on s'en occupe bien, et plus on profite aussi de la puissance de ces éléments qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, donc ensuite des slides pour se documenter et deux choses. Alors le slide 21, c'est conceptuel, c'est les grands concepts, c'est les grandes lignes. C'est des articles de fond pour montrer les grandes lignes de ces problèmes de toxicité et de solutions qu'on peut avoir. Et puis le deuxième slide, c'est des éléments beaucoup plus pratiques pour explorer, faire. Très technique éventuellement comme l'auto-hébergement avec OpenBSD si ça vous intéresse ou plus simple comme le nom de domaine, comment choisir son fournisseur d'email, les CoolPhones donc qui est avec un site dédié pour expliquer ce concept et montrer comment on peut faire ces téléphones qui sont sains. Voilà. Je sais pas au niveau du temps si on a mis 11 minutes, c'est bien, c'est très court, c'est ce qu'il faut. Non, on n'a pas mis 11 minutes. Non, non, c'est pas 11 minutes. Bon, c'est pas très grave. J'ai voulu faire court pour que, diapositive 23, le plus important, c'est vos questions, les réponses. Est-ce qu'on va pouvoir, dans cet atelier, voir ensemble sur ce qui vous permettra d'aller vers le numérique sain? Voilà, donc la parole est à vous. Qui veut commencer? Ou alors on peut peut-être faire un tour des questions, des points, et puis après vous vous mettez d'accord sur ce que vous voulez qu'on traite en premier. C'est comme vous voulez. À vous. Oui.
Digital avec les locales, etc. L'autre aspect sur celui, alors vous avez évoqué au tout début du pillage des données, et moi je me demande en fait quelle est la réalité aussi en France, et c'est ce que je mettais un peu en commentaire dans le chat, en fait des publics vraiment très vulnérables, notamment sous le coup de la loi française, par exemple des usagers de drogue, il peut y en avoir d'autres, des réfugiés, etc. Est-ce que c'est finalement pas plus vers Google que chez un hébergeur français, par exemple? C'est quoi la réalité des grands services qui sont quand même fiables, etc., vis-à-vis de la loi française?
Ok. Je note deux questions, hein. Les moyens et les services étrangers peuvent avoir des avantages. Ok. D'autres questions qu'on voit un petit peu l'ensemble, que ça permette de... Ok, j'ai une question par écrit. Quelle alternative à Facebook pour relayer les actualités et les actions de l'association? Ok, ça c'est une autre... C'est similaire aux questions des moyens, mais c'est intéressant parce que c'est une question de... Justement, de grande distribution ou de petits commerces, en fait. Ok, ça c'est une question aussi qu'on va voir. N'hésitez pas à mettre toutes les questions, il faut qu'il y en ait plus que ce qu'on pourra répondre, hein. On verra. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de faire un tour et de piocher des choses qui me paraissent soit le plus demandé par les uns et les autres de l'atelier, soit les plus intéressantes parce que pour la sensibilisation, pour démarrer, c'est les premières. Enfin bon, là, elles sont toutes intéressantes, hein. Voilà. Ok.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Oui, bon, je suis arrivé en retard, désolé, hein, j'ai pas eu de...
Pas de souci.
En fait, moi, mon souci, donc, ce serait de trouver une alternative à tout ce qui est Google Drive, qui est quand même bien pratique,
Oui, d'accord.
et qui offre pas mal de je dirais, souplesse d'utilisation, mais peut-être que je me trompe et qu'il existe des alternatives, et voilà, je n'en suis pas informé.
Oui, il en existe. Et ça, il y a un slide, et puis on va le regarder, hein, on va en parler. Si je me débrouille bien, j'arriverai à en parler un petit peu comme les alternatives à Facebook. Enfin, on verra, mais ok, alternative à Google Drive.
Merci.
Et Fabrice, encore une fois.
Oui.
Le coup m'intéresse parce que même si tu utilises des très fiables, libres, etc., on se rend compte que dans le cadre d'enquête policière, en fait, c'est le téléphone, et même si on utilise le téléphone, en fait, c'est toute la chaîne de sécurité qui tombe à l'eau. Donc,
J'entends pas très bien, j'ai pas capté tout là. Allô?
c'est haché.
Oui, c'est ça.
Moi, je vous entends bien. Enfin, la connexion a l'air bonne. Ce que je disais, c'était le concept de cool phone. Ça m'intéressait notamment en termes de sécurité des données. Enfin, parce que parfois, même quand on utilise des outils très sécurisés comme des messageries, des systèmes SIM, bah, il suffit que le téléphone en lui-même soit aux mains d'enquêteurs, par exemple. Et en fait, il a accès à tout ça. Donc, en fait, voilà, je ne sais pas si le cool phone répond à ce type de préoccupation.
Oui, ça peut. Ok, mais bon, la notion de cool phone par rapport à quoi? Comment on dirait au fait de se préserver d'une information qui serait très libre? Ou par rapport à la loi? Parce que il y a la question quand même de la loi qui est derrière. Normalement, il ne s'agit pas de d'empêcher la loi de s'exercer, c'est-à-dire si il y a des enquêtes. Maintenant, peut-être pas de laisser non plus trop de traces. C'est ça peut-être la question.
Oui, les traces, et puis le fait d'utiliser. Oui, il y a l'histoire des traces, et puis le fait que ces outils, en fait, il y a un côté éducatif de l'utilisateur pour qu'il sécurise son terme. Et puis, il y a les outils qu'on utilise dessus, être sûr qu'ils soient vraiment
Ouais, ouais,
fiables,
ouais,
robustes,
ouais, ouais.
et
Ok.
voilà.
Alors sur le Coolphone, ok, c'est en fait ce que je vais faire, c'est que je vous présenterai les grandes lignes, ça sera déjà bien. Il y a un site dédié pour ça, et puis ça, je pense que ça répondra globalement aux questions en présentant les grandes lignes et les avantages, la force de ces choses-là, etc. Ok, il y a une autre question de Marie-Claire, donc la question des bases de données partagées, quelle piste d'hébergement des données, développeurs de bases de données pour des associations aussi. Une question d'ailleurs corrélative aussi de Raphaël, qui est comment mobiliser les communautés libres pour nous aider bénévolement à mettre en place les solutions. Ok, ça c'est aussi une question, enfin ça, c'est pas, ça va être intéressant. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer là parce que ça fait déjà pas mal de questions, c'est bien. Et puis
Une dernière
si,
question.
oui, bien sûr.
Est-ce que là, j'ai vu dans la présentation que vous parlez de WordPress et que en fait plus que WordPress, c'est surtout les modules complémentaires que l'on peut
Ouais,
rajouter.
ouais.
Est-ce que Joomla a le même problème que WordPress, par exemple?
Je suis expert J2E, mais je connais bien, enfin, je connais Joomla parce que c'est du Java, mais là, je sais pas sur ça. J'ai pas été regardé. J'aurais tendance à dire que, a priori, pas trop, mais tout le problème, c'est qui met en place un module qui vous récupère des données pour vous aider, etc. Et pourquoi pas, mais qu'est-ce qui est fait de ces données? Voilà. Donc, sur Joomla, je ne sais pas, il faudrait aller regarder. Joomla en lui-même, je ne pense pas, parce que ça va dépendre où vous l'hébergez et quel genre de module vous mettez en place. Voilà. Mais on viendra sur ces questions, on viendra à travers ce qui a été vu pour les Facebook, pour d'autres choses. Je reviendrai aussi là-dessus, donc je l'ai noté. Ok, alors. Oui, Raphaël dit que Joomla est sécurisé. Le problème, ce n'est pas la sécurisation. Les gens se focalisent beaucoup sur la sécurisation. Je vais vous le dire d'une manière qui normalement interpelle. En fait, Google, les GAFAM sécurisent énormément les données pour être sûr qu'elles seront bien à eux et pas à d'autres. Vous voyez l'idée? Sécuriser, c'est pas le souci. Enfin, c'est plutôt eux, ils utilisent la sécurisation pour être sûr que le concurrent va pas justement bénéficier de tout ce que vous leur donnez. Alors, on prétend que c'est pour vous protéger. Mais c'est surtout parce qu'ils veulent protéger leurs actifs. Et là, je parle comme un financier. Donc, vous voyez, la sécurisation n'est pas le problème. Ça dépend, enfin, en fait, qui a les clés du coffre-fort, quoi. Et dans quel coffre-fort ça a été mis. Donc, en fait, oui, Joomla est sécurisé. Oui, ça, c'est sûr. C'est du Java, il y a du. Bon, c'est très costaud, quoi. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas tellement le souci. Le souci. C'est où vont les informations, les données qui sont par exemple dans un module. Vous pouvez avoir un module qui fait que les informations sont stockées une base de données d'un fournisseur qui veut vous aider et que en vous aidant, ben, il repère les noms, les numéros de téléphone, les informations clés du fait que des personnes qui viennent en contact avec vous, donc qui sont en contact avec la problématique de l'association, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être donc sans papier, réfugiés, etc. Ça ne veut pas dire que toute personne qui rentre en contact ou utilise ce module et cette information sont toutes des réfugiés ou des sans-papiers ou des personnes qui ont des difficultés avec l'alcool. Mais bon, a priori, ça donne une bonne piste. Voyez voilà. Alors. Alors, je vais reprendre la question de base des moyens, qui reprend beaucoup, beaucoup des éléments. Les moyens qu'on utilise, par exemple tout à l'heure, c'est pas une question de dire il y a des services toxiques qui fonctionnent et des services qui sont pas toxiques qui fonctionnent pas. C'est de dire que on nous fait croire que c'est gratuit. Il y a des personnes il y a des services donc des services qui sont fournis de manière gratuite avec une exploitation des informations derrière, donc il y a une manne d'argent qui tombe dans l'escarcelle de ceux qui exploitent ça qui leur permettent de fournir un service de bonne qualité. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui se démènent pour fournir quelque chose de pur gratuit et qui en effet, bon, bah, ça fonctionne avec des moyens, je dirais, bout de ficelle, soyons très clairs. Bon, en fait, il y a entre les deux, vous avez encore d'autres fournisseurs qui sont des fournisseurs qui, eux, bon, bah, font payer quelque chose et fournissent le service. Prenons justement de la visioconférence. Toutes les entreprises aujourd'hui, petites, moyennes, surtout grosses, mais même moyennes, ont des services de visioconférence payants avec des fournisseurs X ou Y qui ont des bandes passantes, qui ont acheté tout ça. Ces gens-là n'exploitent pas l'information parce que ce n'est pas leur truc. Ils ne savent pas faire, puis ce n'est pas leur truc. Ils savent fournir un bon service de visioconférence. Et l'entreprise donc fait ses visioconférences. Ça marche très très bien. Il y a des petits soucis quand même, hein. Moi, je travaille en entreprise, il faut quand même toujours un petit peu régler les choses. Mais enfin, on fait des visioconférences avec des gens en Inde, tout ça, c'est pas un souci. Ça marche bien parce qu'on a payé, parce qu'on a mis des moyens. Donc, le vrai souci aujourd'hui, c'est de croire que ça fonctionne en tombant du ciel de la Silicon Valley, direct dans notre bec, là, et puis qu'on en profite, mais qu'en fait, il n'y a rien à payer. La vraie question, et je pense pour les associations, c'est de se dire, bah, on a besoin de moyens pour ça. Il va falloir mettre quelques moyens pour bénéficier de services de bonne qualité qui fonctionnent bien. D'arrêter d'être entre du pur libre, pur ouvert, qui se met en mode comme Framatalk ou comme Big Blue Button, qui c'est une démo, le service, là. C'est pour faire connaître leurs produits qu'ils le mettent là. Donc faire avec des bouts de ficelle et puis de l'autre côté faire avec des gens qui vous disent on va vous aider gratuitement et qui en fait pillent vos informations. Il faut aller chercher donc des gens qui font payer quelque chose parce qu'ils vous donnent un service, ils vous servent vraiment, ils sont à votre service. Voilà, donc ça c'est pour les moyens globaux. Alors ça reprend pratiquement la question de Marie-Claire sur l'alternative à Facebook. Relayer l'information, les actualités, les actions des associations, on peut le faire par des moyens qui ne sont pas forcément pseudo-gratuits et exploitant vos données et surtout mettant en péril vos adhérents et vos bénéficiaires. Ça peut, bien sûr, c'est la même chose pour tout ce qui est hébergement de données, c'est la même chose pour Google Drive. Donc, en termes de moyens globaux, il y a des alternatives. Il suffit de s'y intéresser, d'aller regarder et de les prendre. Alors, pour Google Drive, je donne tout de suite la piste. C'est la slide, je vais aller regarder parce que je n'ai pas de ça en tête. Mais ça doit être la slide 14, non, 15, non, oups, la slide 14. Vous avez les hébergements chatons. Bon, c'est très nouveau les chatons, mais ça commence à se mettre en place. Il y a des choses pas mal, c'est bien. Vous avez. Qui vont donc, et puis vous avez les hébergeurs de Tipeee, O2 Switch, WordTech n'est pas hébergeur, mais c'est un fournisseur de services qui saura vous recommander des hébergeurs de bonne qualité. La Merzaclis aussi, la Merzaclis fait des choses bien. Donc vous avez tout un tas d'hébergements qui vont vous garantir que ça se passe bien, qui sont des services payants, bien sûr, mais ce n'est pas coûteux. Alors on est sur du, en gros, pour avoir un compte, c'est 25 euros par an. Vous dépensez beaucoup plus en chauffage, en général, que dans l'hébergement. Et puis alors les outils qui sont bien, ben, il y a Nextcloud, il y a Cozy Cloud, il peut y en avoir d'autres. C'est pas le souci. OVH a mis aussi au point des outils qui peuvent être pas mal, je pense. La question, c'est bien sûr qui héberge les données. Voilà, donc ça, c'était pour Google Drive. Alors, en termes de fournisseurs de services, Blandine demande OVH. OVH n'est plus local. Ils ont une approche qui est bien, globalement, mais ils sont devenus un acteur mondial. Donc, on retombe dans le problème d'entreprises qui ont des stratégies bien au-delà de celles de vous servir localement. Donc, OVH, moi, j'ai connu en 2003, au tout début, quand c'était c'était tout petit, quoi. C'était magnifique, c'était mignon. Aujourd'hui, c'est devenu un tel truc. J'ai toujours des comptes chez eux, hein, des sites et des machins. J'en prends encore quelques-uns, mais moi, c'est tout petit ce que je fais. Je vous dirais franchement, OVH, c'est devenu trop gros. Moi, à mon avis, on peut faire avec beaucoup plus local. Le problème d'OVH, c'est qu'il risque d'être aussi sous la pression, des pressions pas forcément obscures, je dirais. Bon, voilà. C'est-à-dire, service secret, machin. Plus c'est gros, plus ça va attirer l'attention. En termes de moyens, ça soulève aussi une autre question. Vous êtes en général des petites associations. En tout cas, moi, je connais même les grosses ONG, elles restent quand même petites à côté de certaines autres entités, à côté de Volkswagen, par exemple. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'un fournisseur mondial extraordinairement énorme. Vous avez besoin de fournisseurs qui sont de la même taille que vous. Prenez Odeswitch, Ikula, la coopérative Ouvaton, qui est indiquée sur les sites de fournisseurs que je trouve validés. Vous prenez une coopérative comme celle Ouvaton, ils ont 3000 clients, ils sont coopératifs, hein, donc c'est une sorte d'association, mais il y a des moyens matériels assez conséquents. Ce sont des fournisseurs qui, à mon avis, sont beaucoup plus proches de vous et avec lesquels vous aurez une interaction de belle qualité et des gens qui vont vous servir plutôt que des gens qui ont des stratégies mondiales, etc. Fabrice pointe que Octave Cabla a fait son mea culpa pour la globalisation d'OVH, etc. Oui, parce qu'ils ont compris que c'était une question de stratégie marketing clé. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils montrent bien, et ça c'est une très belle stratégie qu'ils ont eue, c'est de dire on a une entité juridique indépendante pour chaque pays. En fait, ils font ce qu'on disait avant, ils pensent global, mais ils actent local. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous êtes au Danemark, et ben vous avez une filiale danoise avec qui suit le droit danois, etc. En France, pareil, etc. Avec des serveurs qui vont être en France, etc. Oui, maintenant, ça reste quand même un groupe qui a une vision, une politique globale énorme. Ils veulent investir 1 500 milliards sur 5 ans, donc 300 millions d'euros par an, c'est ce qui est annoncé. Donc ça veut dire que ils le feront, quoi. Alors, je vais vous donner aussi un exemple. Quand vous payez OVH, aujourd'hui en France, il y a une part du bénéfice, de la marge qu'ils tirent de ce que vous leur donnez par rapport à ce qu'ils vous donnent en termes de services. Qui va dans leur stratégie internationale. Vous n'avez pas forcément besoin de ce genre de fournisseur. Vous pouvez avoir un fournisseur local qui aura une stratégie locale et qui investira en France et donc investira pour d'autres associations comme vous, pas pour aller chercher des clients aux États-Unis, par exemple, comme ils le font chez OVH. Voilà. Moi, j'aime bien OVH, mais je dirais aujourd'hui, c'est pas indispensable. Il y a beaucoup mieux en allant chercher plus petit. Il pourrait y avoir par exemple une association qui se monte, qui vous conseille, vous les associations, ou ça pourrait être Webasos qui mettent ça dans ses activités, ses services rendus, de vous guider sur des fournisseurs de qualité et locaux. Et puis les fournisseurs seraient ravis de montrer qu'ils aident les associations. Il y a sûrement quelque chose à faire de ce côté-là pour ceux qui veulent. Et puis les autres iront, comme beaucoup de la population, manger chez McDo ou manger chez du surgelé chez Picard. Bon, voilà. Chacun fait comme il veut. Raphaël pointe sur OVH le fait d'être mis en avant par la police, oui, et l'Europe pourtant, oui. En fait, OVH, on est tout content de voir, ah bah tiens, on a un leader français. Ouais. On a un leader, on a une très belle boîte qui est là, machin, etc. Bon, d'abord, ça fait 15 ans qu'ils sont là, donc si on avait voulu les voir, enfin, il y a 5 ans, on pouvait déjà les voir, hein, ils étaient déjà bien gros. Oui, puis c'est facile OVH, parce que c'est justement, c'est français, c'est européen, et ils auront une très belle destinée au niveau de l'Europe, hein. L'Europe a tout intérêt à les pousser. D'ailleurs, je crois que c'est en train de se faire, là, ça y est, jusqu'à présent, ils se sont débrouillés tout seuls. Jusqu'à présent, ils avaient justement la politique de l'indépendance. Aujourd'hui, ils ne vont plus l'avoir, la politique de l'indépendance. Voilà ce que je dirais sur OVH, mais je ne voudrais pas trop m'étendre parce que le but, c'est d'aller chercher des fournisseurs locaux. Je vous invite à aller regarder des gens comme Ikula, comme Ouvaton. Ils ont du super service, ils sont proches de vous, ils vous téléphonent quand il y a un problème, ce que ne fera jamais un OVH, plutôt que de vous répondre par des mails et des machins. Ils prennent le temps de vous appeler, et les prix sont les mêmes. Voilà. À mon avis, on est mieux servi comme chez un petit épicier qu'on connaît que dans de la grande distrib. Je vais essayer. Alors là, je m'y perds un peu, j'avoue. On a parlé des moyens globalement, qui était la question de Fabrice. et de comment se positionner avec ses fournisseurs. Je vais résumer en fait sur un point, c'est prendre des fournisseurs locaux de proximité qu'on connaît et qui affichent des valeurs, qui vous, comme vos associations, qui montrent, voilà, nous on veut le bien, on fait les choses de cette manière-là, voilà ce qu'on fait. Bien sûr, en ne se faisant pas berner par les messages qui seraient fallacieux, mais en général, une association, c'est pas ce qu'elle fait. Voilà. Et un petit fournisseur, c'est pas ce qu'elle fait. Bien sûr, Google vous dira aussi qu'ils font le bien. Enfin, comme ils ne vous ont pas dit ce que c'était le bien, et qu'on commence à voir ce que c'est. Bon, voilà. Donc, local, de proximité. Ça. Et un dernier point aussi qui me paraît très intéressant. Si vous avez la possibilité, allez les voir. Allez chez eux. Rentrez en contact. Humain, face à face. Ça prend une après-midi, enfin, le temps d'aller passer 1 heure avec eux, une demi-heure avec un commercial, avec quelqu'un de là, et puis de rentrer dans leurs locaux, de voir comment ils fonctionnent. C'est très instructif. Et c'est comme ça qu'on établit des bonnes relations avec son fournisseur. C'est très important sur le numérique, parce que je pense que vous en tirerez beaucoup plus, rien que par le contact, et la fois où vous aurez besoin d'eux pour un pépin ou un truc. Ils vous expliqueront aussi des choses, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, ils peuvent vous aider. Oui?
Si je peux juste réagir, en fait, là, bon, vous avez des connaissances, mais vous prenez l'analogie de la nourriture avec McDo. Si je veux manger bien, manger du bio, il y a un label. Moi, j'arrive pas à faire bien, hormis si c'était vraiment des recommandations de personnes en confiance, entre le fait en fait, boulot, parce qu'il me dit que.
Oui,
Quand
je
c'est
comprends.
un peu compliqué de juste dire le local c'est bien et le global c'est bien.
Non, en effet, en
Quand
effet.
on cherche vraiment la sécurité de nos
Alors, en effet,
utilisateurs.
tout à fait. Autre point clé, je l'ai mis dans le slide 9, comment la stratégie, faites-vous aider par des spécialistes à votre service, des spécialistes qui vous conseillent vous, donc des assistants numériques, des informaticiens. Il y a des associations aussi qui peuvent vous aider. En fait, c'est comme pour la nourriture, vous l'avez dit, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment on fait pousser du blé aujourd'hui, nous, tout ça, on ne sait pas. Par contre, on est quand même capable, comme tout dirigeant, d'écouter, d'entendre, d'explorer, de se renseigner, de prendre des avis éventuellement d'autres associations qui sont vos partenaires, qui. Et quand il y a du bon, en général, on le sait assez vite. Et quand il y a du mauvais, on le sait aussi très vite. Donc, de prendre des décisions sur cet ensemble d'éléments. Après, il n'y a pas de label aujourd'hui. Enfin, si, par exemple, Framasoft a lancé les chatons, les hébergeurs de type associatif, qui n'utilisent que du libre, qui sont solidaires, le S à la fin, c'est solidaire, qui sont neutres aussi, etc. Vous avez un label qui est en train de se mettre en place. C'est vrai qu'il est extrêmement ténu. Aujourd'hui, très peu de gens comprennent ce que c'est, s'y mettent, etc. Maintenant, si vous y tenez, vous pouvez vous appuyer dessus et ne prendre que des hébergeurs qui sont chatons. C'est déjà une très très bonne référence. Voilà. Je vous dirais globalement, il s'agit de, en tant que dirigeant d'association, d'en assumer la responsabilité, de faire des choix pour ses fournisseurs. On peut se tromper, on peut s'apercevoir au bout d'un moment que ça ne convient pas, que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait cru. Moi, ça m'arrive. Maintenant, en général, en prenant des avis, les choses se passent bien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez binaire, en fait. Vous avez des gens qui sont d'un certain côté et ça se passe bien, et puis vous avez des gens qui sont d'un autre côté et puis c'est pas, ben, ça se passe autrement. Voilà. C'est plus facile d'ailleurs que dans le bio où c'est pas très clair en fait la frontière entre des gens qui font du bio et qui font pas du bio, enfin qui voilà. Je trouve que c'est plus facile. Enfin voilà, je vous donne un point de vue. Un dernier point d'ailleurs aussi de ce point de vue-là, vous avez des gens qui commencent à se positionner pour favoriser ce numérique de bonne qualité avec des notions de label. C'est des gens comme Librem, je les ai pas cités dans les slides, ils sont sur les sites. Librem propose de faire du numérique, un peu comme Firefox, mais cette fois-ci au niveau des hébergements de services, propose de faire de l'hébergement de services de bonne qualité. Un dernier point pour Fabrice, parce que je crois que c'était Fabrice, hein, pour cette question. Quand on commence à mettre le pied du côté du numérique sain et des services libres, etc., il y a le bouche à oreille aussi. C'est-à-dire que très vite, en fait, on va vous recommander autre chose, on va vous indiquer autre chose. Il y a pour héberger les mails, et puis après, on s'aperçoit que pour les fichiers, ben tiens, il y a, voilà. Et par le bouche à oreille, par le relationnel, en fait, la relation entre toutes ces assos, tous ces fournisseurs. Une fois qu'on met le pied dedans, on peut très vite aller dans ce domaine-là. Donc ça, voilà, il n'y a pas de label, il n'y a pas de chemin balisé, c'est vrai, mais il y a possibilité d'y aller. Il y avait la question des services à l'étranger qui peuvent être avantageux. Est-ce que vous voulez qu'on la traite maintenant ou plutôt plus tard? J'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde là. Ok, je vais traiter les deux questions, celle de Raphaël et celle des services qui pourraient être donc à l'étranger, qui auraient des avantages par rapport à ceux de France qui pourraient être sous l'emprise de. Bon. On est dans un domaine qui est nouveau. C'est pas l'Eldorado parce qu'il est extrêmement industriel et stabilisé aujourd'hui, mais c'est très nouveau. Donc il n'y a pas de choses institutionnellement établies. Il n'y a pas d'institution. On est dans une crise d'institution, les anciennes s'écroulent et les nouvelles sont pas vraiment encore là, dont le numérique. Donc les services à l'étranger peuvent aussi offrir des avantages. Et aujourd'hui, c'est une des grosses difficultés des États. C'est qu'en fait, les gens se baladent. Ils vont chercher des services à l'étranger, puis ils sont sous d'autres juridictions, et puis ils font les choses autrement. Bon, ça se faisait déjà avec les sociétés écrans et voilà, des gens qui allaient faire leur société à Gibraltar, des choses comme ça. Ben, en fait, maintenant, on le fait avec le numérique pour plein de choses. Alors, oui, il y a des avantages. En tout cas, c'est sûr, c'est pas balisé. Il faut expérimenter, faut voir. Il y en a qui vont très bien s'en porter, ça se passera très bien pour eux de cette manière-là. Il y en a qui auront des déboires. Il y a des risques, c'est vrai. Et en fait, ça répond aussi à la pérennité des services sur les hébergeurs locaux, parce que ces hébergeurs peuvent être plus petits. Oui, c'est vrai. Ça peut poser des fois des soucis. C'est-à-dire, si votre hébergeur vous plante, ça pose des soucis. Mais c'est pareil pour des locaux. Vous avez des locaux et puis vous avez votre bailleur qui vous dit bah, non, bah, j'ai besoin de récupérer, je vends, le nouveau propriétaire vous veut pas, donc à la fin du bail, on termine et puis vous êtes obligé de déménager. Alors, c'est sûr, c'est embêtant, mais on le fait. On le fait déjà pour plein de choses. Vous avez. Bon, donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les hébergeurs de type chaton, ce label, en quelque sorte, cette façon de faire, il y a un S à la fin de chaton parce que c'est solidaire. C'est-à-dire que ce qui est mis en place, c'est de dire si un hébergeur se plante, les autres hébergeurs peuvent prendre le relais en attendant, si ça convient à l'utilisateur, au bénéficiaire. C'est-à-dire que vous avez un hébergeur chaton qui est tout petit, qui s'arrête, sauf accident vraiment grave de son activité, je veux dire, il prépare et puis il dit, voilà, j'ai pris d'autres hébergeurs chatons, vont prendre le relais, ils peuvent vous héberger, etc. Ce qui va faire fonctionner ça, c'est un point que j'ai mis aussi dans les slides, qui peut passer assez inaperçu, mais qui est très important, c'est d'utiliser des services qui sont interopérables. Vous prenez l'email est interopérable. Vous prenez vos boîtes mail, vous les basculez par transfert chez un autre hébergeur, ça passe. Ça se marche tout seul, voilà. Vous voulez prendre vos comptes Facebook, etc. Vous voulez les mettre ailleurs, bah ça passe pas. Et d'ailleurs, Facebook vous interdit, veut pas, parce que c'est tout à eux. Ça, c'est le problème de l'enfermement dans des mondes privés, dans des mondes où on veut votre bien, mais on ne fait pas forcément ce qu'il fait. Excusez-moi, je suis en train de lire. Oui, l'interopérabilité. Bon, voilà. Donc, oui, les chatons, ça va aussi commencer à se développer parce que justement, ils offrent quelque chose qui commence à intéresser beaucoup. L'interopérabilité, c'est très important. Aujourd'hui, sur des fichiers, par exemple, c'est relativement faisable. Vous transférez vos fichiers d'un hébergeur à un autre. Si vous êtes dans du Nextcloud, normalement, ça doit pouvoir se faire. L'avantage d'utiliser des logiciels libres, c'est qu'ils vous ouvrent les données, puisqu'ils s'en fichent. Alors que l'inconvénient d'être avec des gens comme OVH, etc., c'est qu'ils ont des super services, oui, mais ils font pas en sorte de vous aider à partir. C'est pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt, ils savent le faire. Chez OVH, ils savent encore le faire, parce qu'ils ont une pureté en eux encore, mais ça pourrait s'éteindre, cette pureté. Bon, ça c'était pour OVH, mais chez les autres, là, chez Google, ça c'est sûr que non, hein. Ça c'est sûr qu'on ne vous laisse pas partir avec vos données facilement. D'ailleurs, elles sont leurs propriétés, donc c'est très clair là-dessus. Ça répond à la question de la pérennité de ces moyens. La manière de faire, c'est d'être capable de changer d'hébergeur, de fournisseur sans trop de soucis. Comme une entreprise ou une association peut de changer de locaux, elle est capable de le faire s'il y a besoin. Elle peut changer de véhicule s'il y a besoin. Et elle peut changer d'ordinateur. Il faut aussi être capable, avec des sauvegardes, tout ça, d'être capable de changer d'ordinateur s'il y a besoin. En fait, il faut aussi prévoir que son hébergeur de service, s'il y a besoin, on en change. C'est le meilleur moyen aussi d'éviter les fuites d'informations, parce que ça vous permet, au bout de 3 ans, de basculer chez un autre dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ou même par précaution. Quand vous manipulez des informations sur des gens qui ont été violentés avec des dossiers lourds sur leur parcours, etc., vous avez tout intérêt à déplacer l'information, à ne pas la laisser au même endroit trop longtemps. Enfin, 300, 5 ans, quoi, je veux dire, mais c'est pas un problème au bout de 3 ou 5 ans de dire, OK, on prend tout ça, on le met ailleurs. Parce que ceux qui auraient pu avoir pris l'habitude de venir chercher les informations à cet endroit-là, ben, ils vont pas les trouver. Voilà, c'est tout. C'est la technique de la mobilité. Les agents secrets ont l'habitude. Bon, c'est une piste, hein. Voilà, donc ça, c'était sur les moyens, les services étrangers. Bon, alternative à Google Drive, on a vu. Du Nextcloud. À propos de Nextcloud, vous avez sur le site de Nextcloud aussi, vous avez une liste des fournisseurs, enfin des gens qui sont partenaires et qui proposent de l'hébergement. J'avais été regardé pour quelqu'un et il y a des hébergeurs de tout type, en Suisse, en France, des petits, qui vous proposent des comptes Nextcloud pour 25 euros par an. Vous avez déjà pas mal. Après, vous pouvez monter à 90, vous avez plein de comptes pour tous vos. Si vous êtes plusieurs, si vous avez besoin de plusieurs comptes, etc. Donc, ça, c'était pour tout ce qui était Google Drive. D'autres questions? Parce que moi, dans la liste, j'ai les Coolphone, il y a Joomla, il y a la stratégie, important, la stratégie Facebook. Comment on fait pour avoir une alternative? Et il y a la question de Blandine sur la législation. Et puis il y en avait une que j'avais vue qui est sur les bases de données, les hébergeurs. Enfin, ça, on a plus ou moins répondu. C'est que c'est pareil, les bases de données, il faut les mettre chez des hébergeurs avec qui on a confiance, donc des gens qu'on a été voir et qui sont de petite taille, etc. Après, il y a la question de la législation, justement, sur tout ça. Oui, il y a beaucoup de questions. Moi, je vais traiter celle de Facebook, parce que c'est celle qui, je trouve, est la plus. La plus intéressante, parce qu'elle montre comment on peut s'y prendre, en fait, dans cette habileté à aujourd'hui à mettre les services, à mettre tout le numérique à notre service et non pas à se faire embarquer par les fournisseurs qui ont décidé de nous exploiter, en fait. Une alternative à Facebook pour relayer les actualités, les actions de l'association. Alors, il faut voir que Facebook, Twitter, enfin, tous ces services sont en fait de la grande distrib. C'est de la masse, c'est de la communication de masse, c'est fait pour que tout le monde vienne faire son truc. Les moteurs de recherche aussi, c'est devenu de la masse, c'est-à-dire que vous êtes référencé chez eux, comme on était référencé dans la grande distrib, c'est le terme qu'on utilise. Une fois qu'on est référencé, on a la chance de, oh là là, on va avoir beaucoup de gens qui vont venir. Super. Beaucoup de gens sont revenus de la grande distrib. Beaucoup de producteurs de fromage, tout ça, ils ont dit, bon, ça va, j'ai mis les doigts. Quand ils n'ont pas été broyés par la grande distrib. Parce que la grande distrib, c'est bien, mais d'abord, il faut être calibrée pour faire de la grande distrib, et puis bah, on baisse en qualité, on fait de la masse, on fait de la très grosse masse. Et donc on baisse en qualité. Et voire même on est manipulé par les nécessités de fourguer toujours plus de produits, tout ça. Enfin, la grande distrib vous pousse à ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que vous avez besoin de ça? Et est-ce que vous avez besoin que des gens à l'autre bout de la terre soient au courant de ce que vous faites dans votre association qui est franco-française et locale? Si, mais quand je dis des gens, c'est à grande échelle, à grande masse. Est-ce que vous êtes L'Oréal, quoi, en gros? Non. Donc, il s'agit déjà de redéfinir l'objectif communication. C'est-à-dire que l'objectif communication, c'est que vous avez besoin de communiquer avec des gens en France et de manière probablement plus artisanale. Est-ce que vous avez les moyens d'une stratégie grande distribution? Oui ou non? Si oui, ben, il faut la mettre en place, sinon on peut s'en passer. En gros, il vaut peut-être mieux communiquer et pas donner à ces moyens une emprise sur vous, comme des fournisseurs de produits alimentaires ou même non alimentaires, domestiques, ont préféré ne pas se mettre dans la grande distrib et vendre autrement. Parce que la grande distrib, elle vous broie, souvent. Elle vous impose sa façon de faire. Le rapport de force est phénoménal. Il faut être très gros pour se contrecarrer les contraintes de la grande distrib. Voilà, donc, plus précisément, aujourd'hui, vous avez des moyens de communication, de diffusion de l'information sur vos associations qui est locale et libre. Ça peut être des associations comme Démosphère, etc. Vous avez des tas de sites d'événements, agenda des sorties, etc. Vous avez des sites départementaux qui commencent à proposer des informations au niveau du département, etc. Et au niveau national aussi. Et en fait, ces personnes-là, eux, ce qu'elles veulent, c'est avoir de l'information pour avoir du trafic et que ça vive. Mais elles sont sur un mode où elles ne sont pas dans l'exploitation des données. Pourquoi elles ne sont pas dans l'exploitation des données? Parce qu'elles ne sont pas centralisées. Donc comme elles n'ont qu'une petite partie de gens qui viennent chez eux, elles ne peuvent pas exploiter les données. Par contre, elles fonctionnent sur d'autres modes. Entre autres, elles sont parfois même subventionnées par l'État. Vous avez les offices du tourisme, vous avez des tas d'associations et de trucs départementaux, régionaux, qui sont là pour justement animer des plateformes d'information sur Internet et qui ont d'autres sources de revenus que d'exploiter qui est en train de venir vous voir, les regarder. Voilà. Donc ça, c'est toute une façon de faire qui permet de se faire connaître, de faire savoir beaucoup de choses et de ne pas avoir besoin de passer par les gros broyeurs qui sont des gens qui aujourd'hui, si vous regardez de près, vous en prennent beaucoup plus qu'ils ne vous en donnent. Le deuxième point qui me paraît clé là-dedans, c'est que quand vous passez par ces plateformes, elles prennent des choses que vous ne savez pas. Et ça, c'est très dangereux. Elles vont prendre des informations sur les personnes qui viennent vous voir que vous ne maîtrisez pas. Et ces informations ne sont pas à l'avantage des personnes qui viennent vous voir et de votre association. Je vais vous donner un exemple puisqu'il est concret. Il y a une association qui s'occupe des survivants des violences de l'inceste. Elle est en train de mettre en place son site internet, etc. À partir du moment où quelqu'un rentre en contact et écrit un message sur la page contact de cette association, vous avez 90% de chances sur 100 qu'elle ait subi les violences de l'inceste. Et donc, elle est à tendance suicidaire potentiellement, etc. C'est le but de l'association, c'est justement d'aider les gens à sortir de ça. Si elle va sur Facebook, Facebook va exploiter cette information. Vous pouvez être sûr que les agences, les compagnies d'assurance et les mutuelles, etc., vont acheter à Facebook l'information. Cette personne est allée regarder et passer par la page contact de telle association, donc elle est potentiellement à risque de ça. Bon, après, si elle revient régulièrement, etc., voilà. Avec Facebook, c'est pire que ça, puisque les gens consentent à ce que tout soit tracé. Beaucoup de choses. Ce que vous écrivez, comment vous l'écrivez, combien de fois vous revenez sur une page, une information, est-ce que vous la relayez, cette information, à qui vous la relayez, etc. Donc, vous voyez une chose, c'est que Les personnes, en venant sur votre page Facebook, laissent des traces énormes. Alors, c'est pas gênant quand on est en train de regarder les petits canards qui sont dans la mare et qui se font des trucs. Ah, c'est super avec ses copains. C'est moins gênant. Par contre, quand vous êtes sur des sujets de drogue, d'inceste, de violence, d'alcoolisme ou d'autres choses, ou de problèmes de logement, de réinsertion, enfin bon, quel que soit le truc, aujourd'hui, en fait, à mon avis, Facebook vous offre une vitrine énorme, mais en fait, ils vous en prennent tellement que cette vitrine, bah, il vaut mieux s'en passer. Voilà, ça c'est en fait en synthétique, c'est ça. Il vaut mieux s'en passer parce que elle n'est pas si intéressante que ça. Alors après, il y a des alternatives. Je l'ai dit, il y a des tas de moyens de faire passer l'information sans utiliser ces énormes plateformes mondiales. La deuxième chose aussi que j'ai pas dite, c'est que vous avez tout intérêt à développer vos propres moyens de communication vers les personnes qui sont intéressées en étant dans du libre et dans du sain. J'explique, une mailing list, quand vous maîtrisez votre liste, quand vous maîtrisez l'outil, c'est-à-dire qu'il est l'outil de mailing list, il est hébergé dans des associations qui font ça très bien pour justement vous permettre d'avoir une mailing list sans espionner qui s'est inscrit, qui ouvre la mailing list, qui ouvre le message, etc. Quand vous utilisez ça, vous avez un moyen d'être en contact direct avec ces personnes de manière saine et personne ne vient se mêler de ce que vous envoyez à ces gens et de ce qui s'intéresse à votre association et qui sont en contact avec elle. Voilà, c'est comme les cool phones, la mailing list par rapport à Facebook, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup mieux. Alors c'est plus simple, c'est moins clinquant, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant. Il y a aussi une autre chose, c'est que Facebook, c'est comme la grande distrib. Les gens savent qu'ils se font intoxiquer, ils sont très réticents, alors que quand ils se sont inscrits à une mailing list, c'est qu'ils sont contents de recevoir votre liste, et ils vont la regarder. Voilà. C'est dommage, Fabrice est parti donc pour les cool phones, mais pour les cool phones, le principe est le même, sauf que c'est sur les téléphones. Apparemment, la question des lois sur l'international est intéressante. Je vais en parler en 2 secondes. Aujourd'hui, ça a été vu par le Sénat, la Commission de la souveraineté numérique. Il y a des vidéos là que j'ai regardées qui sont assez intéressantes. Enfin, il y a des choses pas très intéressantes globalement, mais enfin, moi, j'ai pas appris grand-chose, mais on voit que le Sénat commence à se poser la question parce que ben, l'État est en train de perdre complètement sa puissance, puisque aujourd'hui, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis ou d'autres, et la France pourrait faire à peu près la même chose d'ailleurs, vous avez un problème que les lois n'ont plus de frontières. Voilà. Avec le numérique, il n'y a plus de frontières. Donc l'application des lois non plus. L'extraterritorialité, qui est le terme consacré pour dire que bah, des lois qui sont dans un certain pays et une certaine nation avec un certain territoire, en fait, s'appliquent à l'extérieur. Il y a une question là. L'avantage de Facebook, c'est qu'il permet de sortir de sa communauté à qui on peut parler par mail. Comment trouver de la viralité et du buzz au-delà de Facebook? Alors oui, ça comme je le disais, en publiant sur des plateformes mais qui sont locales. Agenda des sorties, Démosphère qui est très impliqué au niveau du politique et de l'indépendance de pensée. Donc Démosphère, c'est un ensemble de plateformes régionales sur la Gironde ou nationales qui vous permettent de publier ce que vous voulez. Pour des événements, pour des informations clés, pour des. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Vous avez des gens qui vont vous permettre de publier de l'information. Je pense qu'il y a des médias aussi, comme Le Média, hein, des gens comme ça, donc de type journalistique, qui seraient assez contents de faire ce qu'on appelle du public rédactionnel via leur plateforme. A priori, ces gens-là vont pas exploiter l'information de la même façon, en tout cas que des gros Facebook et tout. Le problème après, c'est qu'ils vous entraînent dans du Facebook. Mais ça, c'est une autre question qu'on va pas aborder là maintenant. C'est que le problème, c'est quand les gens vous entraînent vers la grande distrib. en vous disant c'est tellement chouette d'aller chez Carrefour. Viens, on y va dimanche, tu vas voir, on va passer la matinée là-bas, on va remplir le caddie, ça va être tellement chouette. C'est-à-dire que quand il vous envoie un mail avec Gmail, forcément, bah, ça passe par Gmail. Quand ces médias, par exemple, vous font des liens sur Facebook, etc., publient tous leurs trucs sur Facebook, bah, ils entraînent toute votre information sur Facebook. Ça, c'est, on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, pour revenir à la base, je vous disais, il y a plein de plateformes, en fait. Il faut apprendre à les connaître. J'en ai répertorié certaines que moi, j'utilise pour mes propres événements, pour mes propres communications. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est de permettre de sortir de sa communauté à qui on peut parler par mail. Oui, et en même temps, Facebook, c'est bien connu maintenant, et en plus, ils ont resserré ça parce qu'ils ont compris que sinon, ça faisait très peur aux gens. Facebook vous enferme dans une forme de communauté aussi, hein. Voilà. Ah oui, un dernier point. J'ai jamais dit qu'il fa... Je l'ai bien dit, hein. Surtout ne pas se priver de la grande distrib. Aller dans les hyper, c'est très bien. Il y a des fois, c'est très pratique. Donc, il faut faire une communication sur Facebook, mais il faut la faire de manière à ce que elle vous permette, vous utilisez au mieux Facebook pour vos intérêts et vous ne leur donnez rien ou très peu de ce qu'ils veulent eux dans leur modèle. Très typiquement, ça veut dire qu'on peut publier de l'information sur Facebook, mais on recommande aux gens de ne pas s'inscrire en suivi, machin, tout ça. Ou alors sur un mode très superficiel. Donc vous avez une communication superficielle extérieure via la grande distrib, et ensuite les personnes sont amenées à vous contacter par un moyen sain, préservé, respectueux de leur personne pour les choses importantes. Je vous donne un exemple. Vous avez une association donc sur les dégâts de l'inceste, les violences de l'inceste. Vous pouvez avoir une page Facebook. Vous publiez des petites informations disant voilà, on fait ça, on fait tel événement. Mais vous dites bien aux gens, ne passez pas par Facebook, ne venez jeter un coup d'œil à cette page quand vous avez besoin, mais venez plutôt vous inscrire à notre mailing list sur notre site, parce que là, vous serez préservé et on ne vous pointera pas comme étant quelqu'un qui est intéressé par ces choses-là avec votre consentement, en fait. Donc c'est de montrer, c'est ce que j'indique dans les slides et dans la stratégie globale, montrer à vos adhérents comment faire les choses de manière saine, comment ne pas se faire gauler, voilà, en gros, ne pas se faire avoir par le système. Quelle piste pour un forum de discussion? Alors très bien le forum de discussion, ça peut être aussi un très bon moyen d'être publiquement visible sans pour autant passer par les grosses plateformes. Le forum de discussion, vous le faites tourner sur un hébergement à vous et l'ensemble des informations du forum, c'est-à-dire tout ce qui est mis, les gens qui s'inscrivent, etc., ça reste dans vos bases de données à vous. Avec, par exemple, un fournisseur associatif qui vous fait tourner votre forum, comme un hébergeur, ou avec Ouvaton, qui est coopératif, ou avec Ikula ou O2Switch ou des gens comme ça, qui vous font tourner votre forum. En effet, le forum est un très très bon moyen d'échanger de l'information de manière consistante, sans pour autant passer par le côté suivisme de Facebook. Et derrière le suivisme, en fait, vous laissez des traces de tout. Donc, il y en a qui exploitent ces traces à vos dépens, aux dépens de votre association, aux dépens des bénéficiaires. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à votre question sur les forums? Je crois que dans Nextcloud, il y a un forum. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un module forum. Donc, si vous êtes chez un hébergeur qui vous fait un compte Nextcloud pour les calendriers, les partages de contacts et les partages de fichiers, je pense que vous pouvez avoir un petit forum déjà. Après, il vaut mieux aussi prendre un vrai outil de forum. Il y en a en libre, ça peut être très bien aussi. Voilà. Ça, c'était pour la partie plus technique, plus pratique, on va dire, parce que ce n'est pas encore très technique. Voilà. On a vu la. Oui?
Une question très technique.
Dites-moi.
Globalement l'empreinte carbone, etc.
J'entends pas bien. Oui?
Lorsqu'on prend un hébergeur très localement, c'est-à-dire en fait près de la communauté, en fait, comme ça,
Oui?
est-ce que on laisse une empreinte carbone moins importante en ayant un hébergeur très, très local, ou alors on passe encore par des tuyaux qui vont très loin et qui reviennent vers l'hébergeur, etc.
Je vais être clair. Moi, pour moi, on s'en fout. Je veux dire, c'est tellement peanuts tout ça. Je suis très écolo. Hein. Je vis à la campagne. Je fais mon potager. Je fais de la permaculture. Je trie les déchets sans qu'on ait attendu de les trier. Hein, etc. Bon. Je dirais, l'empreinte carbone, c'est un gros truc qu'on nous met en place là pour dire attention, il va falloir réduire, réduire. Il va surtout falloir réduire les gâchis énormes qu'il y a partout. Là, bon. Là, vous avez besoin d'un hébergeur. Franchement, savoir s'il y aura une différence de 20% d'empreinte carbone entre l'un et l'autre, c'est pas là que ça se passe. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire aussi, il fallait se brosser les dents en coupant son robinet d'eau, et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises et des machins qui déversent des tonnes de flotte et qui pourraient être récupérées et recyclées pour réutiliser le lendemain pour renettoyer les mêmes choses avec un grand jet d'eau. Mais non, on balance tout à l'égout, machin, etc. Vous voyez, je veux dire, alors il y a plein, des millions de gens qui vont faire attention à fermer leur petit robinet d'eau pendant qu'ils se brossent les dents, et puis de l'autre côté, on gaspille, voilà. Bon. Il y a une question d'éducation globale, la question est intéressante, je vous dirais aujourd'hui ça n'a aucune importance. OVH a mis au point un système de refroidissement liquide, je me rappelle dans les années 2005, à peu près 2006, ils avaient publié des articles, moi j'avais lu ça, c'était passionnant, hein. Ils ont des systèmes de refroidissement liquide de leurs ordi, des processeurs, qui est remarquable, ce qui fait qu'en effet ils sont très efficaces, c'est ce qui leur permet aussi d'avoir des prix très bas, au niveau de, parce qu'ils ont des factures d'électricité très basses. Donc en effet un OVH, par sa qualité, a réussi à avoir une empreinte très faible. Bravo. Maintenant, le problème après de l'OVH, je vous disais, c'est qu'ils, bah justement, ils ont tellement bien réussi qu'ils sont devenus très gros, donc du coup, etc. Bon. Après, vous pouvez être sûr que des gens associatifs ou quoi ont cette présence d'esprit et ils feront tout ce qu'ils pourront dans leurs moyens. Je vous dis, la différence, à mon avis, ça va être 20%, 30%. Et je crois que c'est pas là qu'il faut se préoccuper. Voilà, donc l'empreinte carbone, moi je pense qu'il vaut mieux payer un service à une association locale proche qui va, bon, qui aura peut-être des serveurs qu'elle entretient elle-même, qui consomment un peu plus que des gens qui auraient été plus, qui auront plus serré les boulons sur ce côté-là, mais c'est à mon avis très peu. Voilà, sinon au niveau pratique et technique, ce que je vous dirais, c'est que tant que vous utilisez, aujourd'hui les moyens que je vois hein, pour les associations sont tellement petits que l'empreinte carbone des serveurs pour faire tourner un Nextcloud, mais c'est tellement petit tout ça, c'est petit mais c'est noble, hein, c'est super. Il y a Raphaël qui s'est déconnecté, mais je pense qu'on peut continuer si vous voulez, hein, pour quelques questions. Voilà, donc, et puis alors au niveau, donc oui, quand je disais c'est tout petit, c'est que en fait, la consommation d'électricité des moyens numériques des associations aujourd'hui, c'est tout petit. C'est tellement petit à côté de ce que fait un Renault pour ses grappes de serveurs, ce sont des grappes de serveurs, hein, on appelle ça comme ça. Pour faire tourner des applications comptables, faire tourner des applications de production, des applications pour le marketing, tout ça, avec des data centers énormes, etc., que je pense que la préoccupation... Enfin, vous pouvez y aller, quoi. Vous pouvez y aller. Voilà. Est-ce que c'était... Vous voulez plus de technique? Ou est-ce que ça répond à votre question?
Non, ça répond.
Je vais vous donner un exemple. Je fais tourner un petit serveur ici, chez moi, en auto-hébergement, en OpenBSD. Il est bien régulé avec les mises en veille quand il faudrait, etc. J'ai en tête de faire un système de majordome pour économiser encore. C'est-à-dire, je vous explique. Un majordome, quand vous sonniez à la porte d'une maison de maître, vous aviez un majordome qui allait voir si monsieur était disponible ou madame était disponible. C'est-à-dire, en gros, s'ils étaient réveillés, hein, par exemple. Le temps qu'il aille voir, vous mettiez votre carte de visite sur un petit plateau, il emmenait la carte de visite, monsieur ou madame disait oui, je vais pouvoir le recevoir, et on vous faisait attendre dans une antichambre. Et puis une fois que monsieur ou madame était réveillé, enfin s'était mis en disposition, il vous accueillait et vous traitiez avec elle. Bon, on peut faire la même chose avec les serveurs. Moi, j'ai vu dans les entreprises, j'ai mis en place des systèmes pour expliquer aux utilisateurs, aux clients, enfin, attention, on est en maintenance, donc on les met dans des pages d'attente, etc. On route les pages et ça. Et en fait, on pourrait faire un système de majordome. C'est-à-dire qu'en gros, mon petit serveur en hébergement, des fois, il tourne pas hein, la nuit, vu que je vais peut-être mettre quelques amis dessus en mode chaton, pour qu'ils aient aussi leur compte Nextcloud ici plutôt qu'ailleurs. Voilà, pour des associations, je fais ça en bénévolat. Mais il tourne pas la nuit. Donc, par exemple, il pourrait s'éteindre, il pourrait se mettre en mode veille complète, quoi. Alors, moi, ça m'intéresse de le faire pour le côté pratique et technique, et puis montrer le modèle. C'est-à-dire de dire, voilà, on accepte que quand on essaye de se connecter au serveur, bah, il fait comme avec le majordome. C'est-à-dire qu'il accueille la demande, mais il faut attendre 2-3 minutes le temps que tout se remette en route, les disques se remettent en route, etc. Voilà. Enfin, quand je dis 2-3 minutes, ça sera 30 secondes. Vous voyez, on peut faire des choses sur l'empreinte carbone, mais très franchement, ce n'est pas pour l'économie d'énergie que ça va représenter, hein. C'est plutôt pour le principe, pour l'idée, pour bâtir la suite. On verra dans quelques années, peut-être que tout le monde se mettra à fonctionner sur ce mode-là. En gros, je fais un équilibre. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut accepter d'attendre 30 secondes quand le serveur se remet en route pour avoir son service. En échange de. Ben, ça fait des périodes de 2 ou 3 heures où il n'y a pas de consommation d'électricité. Régulièrement, vous voyez, donc bon, voilà, on peut, bon, enfin, mais vous voyez, c'est bien d'en avoir la préoccupation, mais je pense que techniquement aujourd'hui, c'est pas là qu'il faut se poser trop là, voilà, il n'y a pas de souci en fait, on peut y aller. Voilà.
Faut que chacun fasse sa part, qu'elle soit petite ou grande. Il est important que chacun fasse sa part.
Oui, je suis tout à fait d'accord, et dans le numérique, il y a de quoi faire. Pour aider, pour participer, pour se renseigner. Et puis chaque association peut prendre le. Enfin, moi, ce que un des messages clés, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut prendre le temps, en tant qu'association, de prendre des décisions, d'observer et de ne pas croire que ça va tomber tout cuit. Ça demande des efforts, ce que j'ai mis dans un des derniers slides. Ça demande des efforts. Et dans ces efforts, on fait sa part. Et du coup, elle prend un sens constructif et non pas un sens de contrainte. Un sens de oh bah il faut le faire, c'est embêtant, voilà. Ça devient constructif, ça devient un truc qu'on apporte même éventuellement à ses bénéficiaires. En effet. À propos de faire sa part, Raphaël avait une question qui est intéressante. Comment faire que les logiciels libres puissent participer, aider les associations en les conseillant, en leur faisant des trucs. Bon. La réponse, elle est en deux parties très simples. Tous les gens qui sont dans le logiciel libre, dans les associations open source, etc., sont très moteurs pour aider, pour donner des conseils sur les forums. Il suffit qu'on aille les voir, ils répondent, hein, ils sont présents. Après, inversement, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas le temps de tout faire, tout ce qu'ils aimeraient faire. Bon, donc voilà, les moyens peuvent être plus réduits que ce qu'on aimerait. Mais en gros, en tant qu'association surtout, si vous allez les voir, si vous tendez la main vers eux, ils vous donneront plein d'informations, plein d'explications. Par exemple, sur Nextcloud, vous avez plein de gens qui sont prêts à vous répondre dans la communauté pour vos questions. Quelles que soient les questions que vous allez poser. Voilà. Ça, c'était la question de chacun fait sa part. Il y a du répondant du côté de tout ce qui est libre, associatif, etc. Oui. Voilà. Je vais peut-être conclure sur un point s'il n'y a plus de questions. Oui, j'ai l'impression. Ben, c'est pas grave, on enregistre, puis il y en a qui. Voilà. En fait, à propos de cette part, un des grands mouvements qui se présente là, c'est au lieu de suivre la grande distrib du numérique avec les GAFAM, avec les Facebook, les ah, bon, qui sont tout un modèle de suiveurs, follow me, hein, suivez-nous,
Ils ont peur et les
et
gens
ben en
vont
fait,
être contents.
chacun fait sa part sur un mode plus indépendant et ça bâtit un monde plus diversifié et qui, disons que. Il y aura moins de concentration de pouvoir, donc il y a du numérique de meilleure qualité. Je pense que les associations apportent beaucoup, justement, dans ce domaine-là, d'exprimer une différence et du soutien aux populations, à diverses personnes, tout ça, y compris avec le numérique. Voilà, c'est ma conclusion. OK?
Merci beaucoup.
Bah, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme a proposé Raphaël, on fera peut-être un petit résumé de tout ça après. Bonne journée.
Merci à vous aussi, au revoir.